guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera sans avoir l'air d'y toucher dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle, Laurent, à la technique. Et tout au long de cette saison, Elisabeth vous promènera dans les jardins déclinés selon les périodes et les tendances, ainsi que l'architecture proche au patrimoine qui les accompagne. Elisabeth commence par l'histoire des jardins. Et comme nous dit Philippe Prévost en préambule dans son superbe livre recommandé par Alain Baraton, « Histoire des jardins » aux éditions Ulmer, contrairement aux idées reçues, le jardin médiéval est, par sa sophistication, un lieu de raffinement où se conjuguent les arts et la littérature, la botanique, l'horticulture et la sculpture. Manifestation sensible qui annonce l'art des jardins de la Renaissance italienne fondée sur l'harmonie, l'unité et l'ampleur. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Après les jardins médicinaux, nous poursuivons aujourd'hui avec Versailles et ses jardins. Mais en quoi le jardin est-il différent au XVIIe siècle de celui que nous avons évoqué au temps du Moyen-Âge, justement ?
Alors, le jardin médiéval et plus particulièrement le jardin médicinal dont nous avons parlé lors d'une précédente émission étaient des jardins clos, intimes, au cœur des monastères. Or, à la Renaissance, 16e, 17e siècle, et surtout sous l'influence de l'Italie et de son art de vivre, le jardin va s'ouvrir, il va s'émanciper. Il sort de la limite de la clôture pour partir à la conquête de la nature et l'intégrer dans son décor. Alors, il est souvent constitué de terrasses successives et il est relié à la campagne environnante par un effet de perspective, parce que la grande conquête artistique qui s'est faite en Italie, c'est la perspective. Et cette perspective, eh bien, les artistes français vont la pratiquer, et dans le domaine des jardins, ça va donner des jardins très ordonnés, très maîtrisés, mais avec une sorte de vision qui fait que l'artiste, le nôtre dont on va parler, eh bien, a fait des prodiges avec cette maîtrise de la perspective et des effets d'optique. L'autre élément qui va être très fort dans ces jardins, c'est l'eau. L'eau, source de fertilité, et qui va triompher dans ces jardins renaissants, soit avec la fontaine de Neptune à Versailles, mais ça peut être aussi les canaux, ça peut être des lacs, ça peut être énormément de manières de mettre en scène l'eau dans les jardins. La statuaire antique va venir habiller ces jardins, voire les animer. Et surtout, ces jardins doivent être vus de la demeure, des fenêtres de la demeure. Ces jardins vont offrir une vue panoramique et dont la perspective parfaite va se confondre avec l'horizon. On est vraiment dans quelque chose de totalement maîtrisé, alors que parfois on est sur des terrains qui n'étaient pas du tout prévus pour ce genre de choses. On le verra avec Versailles.
Ce qui veut dire qu'on quitte les jardins clos pour avoir, comme vous le dites, cette perspective et cette vision qui peut aller très très loin. On est hors de la campagne à ce moment-là.
Oui, encore. Dans un premier temps, c'est vrai que le modèle va être Versailles. Versailles va constituer... L'inspiration du moment, et tous les nobles qui se trouvent en province ne vont avoir de cesse de représenter ces jardins, pas bien sûr à la dimension exceptionnelle de Versailles, mais les parcs vont se doter de massifs, on appelle de broderies avec des buis. Ils vont se doter d'allées très rectilignes. Ils vont en quelque sorte, les châteaux vont s'ouvrir aussi. On n'aura plus les petites fenêtres étroites du Moyen-Âge. On va avoir des fenêtres, de grandes fenêtres à meneaux qui vont justement donner sur, pas forcément aussi, les fenêtres à meneaux vont parfois s'élargir, et aussi les fenêtres, évidemment, quand on parle de Versailles, des fenêtres de la Galerie des Glaces qui donnent sur ce parc impressionnant.
C'est fini, alors les châteaux forts, on arrive dans ces...
Oui, le château fort avait vraiment un rôle défensif. Ensuite, on va passer progressivement à la Renaissance à un rôle de résidence. Donc le château va se doter de lumière, alors que le précédent château fortifié n'avait pas de lumière. Vraiment, la lumière va être un élément très important, parce qu'on va se mettre à meubler les châteaux, on va vouloir justement prolonger cette résidence, aller dans le jardin sans y être, à travers les fenêtres. On doit voir ce jardin et on doit pouvoir être dans le jardin, en profiter, sans forcément être dans le jardin physiquement. Voilà.
Et ce jardin donc sert de lieu de promenade. Ça n'a plus le but des jardins médicinaux et potagers.
On le trouve à Versailles. Si on reste sur Versailles, on a effectivement ces très beaux parterres dont on va parler. Mais on a aussi le potager du roi. Donc, et ce potager du roi, dirigé de main de maître par Lacantini, qui était le jardinier du roi, considéré comme un des plus grands artistes de son temps, à l'égal de le nôtre qui a créé les jardins d'agrément. Donc, on y trouve toujours des plantes aromatiques et qui jouent toujours un rôle dans la prévention et le traitement des maladies. La peste, on en a parlé la dernière fois, qui s'est déclarée en 1562, fait des ravages. Et les odeurs de ville sont toujours malsaines et certains métiers portent puanteur et mauvais air, comme il disait. Progressivement d'ailleurs, ces bouchers qui étripaient dans les rues avec du sang qui coule de partout seront progressivement mis à l'extérieur des remparts des villages, parce que justement ils entraînaient trop de puanteur et puis
de maladies probables.
Oui, de maladies et puis de saleté, quoi, tout simplement. Donc il y a le potager, il y a aussi l'orangerie. Alors l'orangerie, c'est un lieu tout à fait particulier, puisque on y fait pousser. Alors l'orangerie a trois buts. Elle a le but d'acclimater de nouvelles espèces, souvent transplantées de leur pays d'origine. Il faut savoir qu'il y a eu les grandes découvertes. Donc on rapporte, il y a des savants qui participent à ces découvertes, qui classifient les herbes, les plantes, les arbres qu'on rapporte. Et on les met justement dans ces orangeries pour les protéger. On produit des fruits et légumes à contre-saison, donc c'est aussi dans ces orangeries. Et on sauvegarde des plantes rares et du froid, en hiver en particulier. Donc, on sortait les orangers au printemps, à l'été, on les rentrait l'hiver. Quand je dis on sortait les orangers, c'est 2000 orangers à Versailles.
Oh là là, c'est énorme.
1000 lauriers roses, des grenadiers, des oliviers, des myrtes, ils sont rangés en hiver. Et lors des fêtes, les orangers sont placés dans des vases d'argent disposés dans les salons. Voilà, on utilisait les plantes et les arbres, on les mettait déjà à certains moments à l'intérieur des appartements. C'est intéressant. Et ces orangeries, au départ, elles s'appelaient des bigaradières, parce que c'était là où on mettait les bigaradiers, qui étaient une sorte d'oranger amer. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que... mais l'Italie a apporté tellement de choses, tellement de choses. Et on a vraiment copié sur des architectures italiennes avant d'arriver à faire ces architectures en France.
Mais ce sont également une architecture de jardin, parce que lorsque l'on voit de ces immenses jardins, ou là, Versailles, puisqu'on y est, ce n'est pas... ça a été restructuré. On a creusé un canal, on a creusé des chemins, on a l'impression que tout ça était d'origine. Je veux dire, il y a eu énormément de travail dans ces jardins.
Ah bien, lorsque Louis XIV, à 8 ans, est arrivé pour la première fois à Versailles, il s'est trouvé devant un rendez-vous de chasse uniquement, et dans un endroit où, je cite Saint-Simon, tout y est sable mouvant ou marécage. Donc le chantier va durer plus de 40 ans.
Oula.
Et en 1685, quelques 36 000 ouvriers et 6 000 chevaux y ont travaillé.
C'est assez incroyable. On peut difficilement s'imaginer toutes ces personnes agglomérées et ces chevaux. C'est magique,
Alors,
c'est incroyable.
Est-ce que vous disiez, à savoir que ça semble très maîtrisé, oui, c'est le jardin à la française est devenu synonyme de maîtrise de l'espace. Ça, c'était tout à fait fort comme message, d'autant plus à Versailles, où le roi... c'était l'expression du pouvoir du roi sur la nature. Il était le roi de droit divin, et il montrait que il était capable de façonner la nature telle qu'il le voulait, et c'était une sorte de pouvoir absolu qu'il démontrait de manière végétale, si je puis dire.
Sur Couleur FM 97.1, suivez le guide avec Elisabeth vers Versailles et ses jardins. Nous venons d'entendre les Muffati sous la direction de Peter Van Hagen, interprété Giuseppe Sammartini, 1695-1750, dans un extrait du concerto Grosso for Strings and Basso Continuo in A Major, opus 21, de l'album Concerto et Ouverture. Giuseppe Sammartini est un compositeur méconnu du public contemporain. Il est appelé le maître inexplicablement méconnu. Alors, Elisabeth, si je vous ai bien suivi, Versailles est vraiment devenu le plan type des jardins de château.
Oui. Versailles était la référence, mais une référence bien sûr extraordinaire de par son étendue. Le Versailles, c'est une surface immense. Le mur qui entoure le parc de Versailles mesure 43 kilomètres.
C'est
donc
énorme.
on est dans un jardin surdimensionné à la mesure de l'architecte suprême qui voulait en faire un point à l'échelle du pays et voire plus quoi. On était les jardins de Versailles se voulaient une référence en la matière. Alors, on trouve ce qui s'est répété à des dimensions bien sûr inférieures, mais ce qui s'est répété en province ou ailleurs, ce sont un type de château où le jardin se trouvait en général à l'arrière de la demeure, dans l'axe de la demeure. On est toujours dans ces effets optiques qui guident l'œil de la demeure, entouré d'un mur ou d'un canal. Et dans ce jardin, ce sont des parterres décorés de dessins assez compliqués qui peuvent représenter des feuillages, des fleurons. C'est ce qu'on a appelé des broderies. La broderie, c'est parterres délimités par des petits buis nains et qui permettent de diviser la nature, de la séparer, de la limiter en hauteur, d'avoir la main sur cette nature, comme si on voulait vraiment la maîtriser totalement. Et il y a des fleurs, bien sûr. Tous ces parterres sont entourés de fleurs ou remplis de fleurs à l'intérieur des broderies. Et la taille des arbustes laisse libre cours à la créativité des jardiniers. Les formes peuvent être en forme de cône, en forme de pain de sucre, en forme de pyramide, en forme de boule. Enfin, tout peut être fait. Seule condition, l'harmonie géométrique doit régner. On est vraiment dans cette pensée. Alors, le buis, en termes de plantes, et c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé le buis elif, le buis qui, dans l'Antiquité, est signe d'immortalité. Pourquoi ? Parce que son bois est très, très dur et que son feuillage est persistant. Et l'if est aussi symbole d'immortalité et il est utilisé par les anciens pour le culte des défunts. Donc on a cette vision de ces parterres qui conduisent le regard, qui peut être complètement symétrique ou rendu symétrique par une pièce d'eau ou par un canal, le grand canal comme c'est le cas à Versailles. Et puis Versailles a surtout ses bosquets, des bosquets qui sont créés alors de toutes pièces, mais qui que l'on atteint par des chemins qui nous conduisent tout à fait de manière très naturelle dans ces bosquets, où là il y a des fontaines, on faisait des banquets, on faisait des sérénades, on faisait des concerts. C'est des petits îlots de verdure qui semblaient beaucoup moins maîtrisés, mais qui venaient complètement structurer la perspective qui était vraiment le grand canal, l'horizon. C'était ça qu'on travaillait à cette époque-là. Sous forme de terrasses, sous forme de petits bosquets, sous forme de talus, de vertugadins, on appelle ça des vertugadins, des talus qui se relèvent et qui mettent en scène les choses. C'est vraiment une mise en scène de la nature en même temps que c'est une expression du pouvoir qu'a Louis XIV sur ses sujets et même sur la nature. C'est un message politique. C'est un message politique de la part de Louis XIV que de se promener avec toute sa cour, qui pouvait se compter par dizaines ou vingtaines de personnes, ou voire plus, et on montait des intrigues, il y avait de la politique qui se faisait dans ces allées de jardin, et des intrigues qui se sont construites dans ces allées de jardin. Et voilà, c'était un prolongement, c'était vraiment le prolongement de son pouvoir. Regardez, il allait, pourquoi pas, s'identifier quelque part au créateur, quoi. On était, j'ai tout pouvoir sur la nature, je fais ce que je veux ici.
Et cette mise en scène de l'eau est importante. Est-ce qu'elle vient aussi montrer le pouvoir? Parce qu'il y a quand même un canal qui est creusé, il y a toutes ces fontaines. Cette eau, elle a une grande, grande place dans ces jardins. Ça vient d'Italie ou bien c'est
oui,
déjà...
Oui, beaucoup d'Italie. Et l'Italie elle-même influencée par des jardins orientaux. Parce qu'il y a toute cette influence du jardin des sens de l'Orient. Et donc là, c'est pas vraiment, il n'y a pas l'intimité des jardins orientaux, mais il y a ce pouvoir de l'eau qui émet un bruit, quoi, un son qui est très agréable. Cette eau qui est le symbole de la fertilité, donc c'est tout du positif que nous apporte l'eau dans ces jardins. Et c'est vrai que les travaux complètement fous qu'il y a eu dans ce jardin, où ont été embauchés d'ailleurs des Suisses, la pièce d'eau des Suisses a été très longue à mettre en place, et il y a beaucoup de Suisses qui ont perdu la vie dans ces aménagements de jardins. Oui, parce que c'était, comme je l'ai dit précédemment, on était sur un sol extrêmement
marécageux,
difficile, enfin voilà, c'était inimaginable d'arriver à ce résultat sur un sol. Il fallait vraiment avoir une main d'œuvre comment dire, à sa disposition nombreuses pour en arriver là. Voilà.
Et donc le rôle de le nôtre, qui est considéré comme un artiste jardinier, mais il est là parce qu'il y avait déjà son père, ou bien...
Il appartenait à une famille très ancienne de jardiniers. Mais le nôtre avait travaillé pour Fouquet, qui était le financier de Louis XIV. Et il avait travaillé avec Lebrun dans son château de Vaux-le-Vicomte. Et Fouquet a décidé de montrer au roi sa demeure. Et il a organisé une fête, comme on sait les organiser à cette époque. Et le roi Louis XIV a été très vexé de voir la flamboyance du château de Vaux-le-Vicomte. Et il a mis Fouquet en prison. Et il a récupéré son équipe de travail, à savoir le nôtre et Lebrun, pour venir travailler sur Versailles. Voilà le roi, l'expression du roi.
Mais le nôtre ne se laissait pas faire. Il a eu un certain rôle aussi auprès du roi. Oui. Et il a été considéré comme, on peut dire, comme un ami. En fait,
tout à fait. Nôtre... D'ailleurs, le roi l'a anobli. Ah, le voilà. Roi a anobli... le nôtre. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que lorsque le nôtre a été anobli en tant que jardinier du roi, eh bien, il ornera ses armoiries de choux, de limaçons, de bêches et d'un râteau.
Voilà. Oh, c'est ce trop qui... super. Voilà pour le nôtre. Et à voir, Elisabeth, est-ce que dans les environs, on peut observer certains jardins de châteaux?
Oui, alors on peut aller voir le château de l'Artaudière à Saint-Bonnet-de-Chavagnes. C'est pas très loin de Saint-Antoine-l'Abbaye.
D'accord.
C'est un très chouette endroit où on voit des terrasses, différentes terrasses qui rééquilibrent la ligne de niveau et pour un carré... parfait. Et ça, c'est très italien.
D'accord.
Il y a aussi l'abbaye d'Urfé à Saint-Étienne-le-Mollard dans la Loire, le château de Lachaise dans le Beaujolais, très beau château, le château de Pizet à Saint-Jean-d'Ardière, et puis le plus près de chez nous, le château de Virieux à Virieux-sur-Bourbe, où on a de très belles plates-bandes avec des buis dont le jardinier du château de Virieux s'occupe avec beaucoup de soin.
Voilà, ben c'est à côté de chez nous. Le château de Virieux, je ne me rappelle pas bien des jardins, donc il faut y retourner.
Les jardins sont en contrebas.
Il y a un grand pigeonnier là, oui. Que l'on peut voir,
oui.
et déjà une entrée aussi particulière.
Oui, il garde encore assez son aspect un peu fortifié. Les jardins ont été faits plus tardivement et en contrebas, oui.
Voilà, ben merci beaucoup Elisabeth, merci Laurent, et à s'entendre dans 15 jours. Merci beaucoup.
Au revoir, Titane.
Au revoir.